Et l'écrivain Yannick Enel, invité de Boomerang ce matin pour son livre consacré au Caravage, un peintre que vous découvrez par hasard adolescent dans un livre de la bibliothèque de votre internat. Quelle image est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette image?
Oui, j'avais 15 ans. C'était un détail du tableau qui s'appelle Judith décapitant Holoferne. Mais on ne voyait pas la décapitation, on voyait que le très beau visage aux sourcils froncés de Judith et sa gorge majestueuse, comme dirait Baudelaire.
Et quel choc est-ce que ça produit en vous?
Ben, un choc érotique.
Ah, d'accord.
Ah bah c'était pour le dire plaisamment, j'avais rencontré l'objet de mon désir. Parfois on peut passer sa vie à chercher l'objet de son désir, comme disent les psychanalystes. Mais là, 15 ans.
Et le désir est quelque chose à voir avec la mort alors?
Eh ben je ne le savais pas à 15 ans et j'aurais préféré ne pas le savoir. Mais quand j'ai redécouvert le tableau 15 ans plus tard, que je l'ai vu en vrai et surtout quand j'ai vu ce que faisait cette femme avec ses bras, elle était en train de couper la tête de ce général assyrien dans cet épisode de la Bible. Ben j'ai vite compris que peut-être cette tête c'était la mienne et que le désir donnait sans doute, paraît-il, sur la mort.
Ce qui en tout cas assez fascinant, c'est que la découverte de cette image et de la femme qui est représentée va aussi catalyser un désir d'écriture, oui, chez vous, Yannick. Et vous écrivez d'ailleurs qu'écrire et désirer sont des activités qui se confondent. Alors dans quelle mesure l'écriture est-elle, pour ainsi dire, un acte érotique pour vous?
Elle est liée pour moi à l'intensité. Elle est liée à encore une fois, à ce qui déborde, à cet excès qu'on n'arrive pas à comprimer. Et pour moi, c'était très naturel d'essayer de décrire ce visage, de décrire ses épaules, de décrire cette petite perle en forme de boucle d'oreille avec un papillon noir qu'elle avait aux oreilles, d'essayer de décrire ce corsage humide dont je ne comprenais pas pourquoi il était humide, mais elle était au travail, elle était en train de tuer quelqu'un. Mais j'ai tout de suite cherché à mettre des mots effectivement sur cet abîme, enfin, qui me renvoyait à, encore une fois, à une forme de solitude.
Aujourd'hui encore, vous écrivez « Penser à une femme, c'est écrire ».
Ouais. Ah ben ça c'est ma vie, disons. J'associe l'écriture à quelque chose de féminin, c'est-à-dire à quelque chose que je n'ai pas, que je ne possède pas, que je ne peux pas posséder. Et pour moi, écrire, ce serait rencontrer une jouissance qui n'est pas la mienne, la jouissance du monde, un ruissellement, alors que je me figure féminin. C'est toujours ça. J'ai toujours eu une femme dans ma tête, pour le dire comme Freud, et écrire pour moi, c'est tendre vers cette femme qui peut-être n'existe pas, ou c'est toutes les femmes, je sais pas, ou c'est la femme aimée. Enfin, mais voilà, c'est ça, c'est un texte ardent, en feu, que j'essaye d'ouvrir, enfin, de phrase en phrase. Oui.
C'est la voix d'une femme que vous avez souhaité nous faire entendre ce matin, la voix de Delphine Seyrig lisant oui. Du Marguerite Duras en 1975.
Je pourrais me tromper. Croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autre chose. Par exemple, oui, d'autre chose, par exemple d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois, belle ou jolie. Jolie, par exemple, pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. Je suis avertie déjà. Je sais quelque chose. Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni le prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient.
Qu'est-ce que vous entendez dans cette voix, Yannick Enel?
J'entends l'esprit, justement, comme elle dit. L'intelligence, le spirituel qu'il y a dans ce corps. Quand elle lit Duras, c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais il se trouve que Duras dit que tous ses textes, une fois qu'elle les écrit, elle les entend lus par Delphine Seyrig dans sa tête. Et elle a cette phrase, j'ai apporté pour vous Outside de Duras, un recueil de textes, et il y a ceci, ces trois lignes, c'est Duras qui dit de Seyrig, on dirait qu'elle vient de finir de manger un fruit. que sa bouche en est encore toute humectée et que c'est dans cette fraîcheur douce, aigre, verte, estivale que les mots se forment.
C'est incroyable.
Oui, c'est très très beau.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, justement, Yannick Enel, dans la vie ?
Dans la vie ?
Dans le monde ?
Oh là ! Ce que je trouve beau, c'est le moment où tout chavire. C'est le moment où le vertige me remplace, où je ne suis plus là pour contrôler quoi que ce soit, c'est l'ivresse, voilà.
De beauté, vous ne cessez d'en parler. Dans ce livre et cette rencontre avec le Caravage, vous lui donnez la valeur d'une initiation, puisqu'elle vous permet de trouver dans votre vie une façon de saluer la beauté. Alors, qu'est-ce que vous entendez par saluer la beauté, d'ailleurs, qui est une expression qui revient?
C'est une expression de Rimbaud, que je me suis permis d'emprunter, de passer comme ça clandestinement. Saluer la beauté, c'est là encore se rendre disponible à quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir.
Ça a à voir avec le sacré, alors.
Ça a à voir avec le sacré, ça a à voir avec un mouvement. Delphine Seyrig le disait avec les mots de Duras, on n'a pas la beauté. La beauté peut apparaître. Il s'agit d'art, en fait.
Oui, parce que ce mot beauté, il semble être devenu un peu galvaudé, non? Il semble ne plus vraiment être l'apanage des arts, mais aussi celui de la publicité, aujourd'hui des réseaux sociaux.
C'est-à-dire que la beauté est complètement prise en charge par la propagande expressive, enfin, vous appelez ça la publicité, effectivement, c'est tout le contraire du calcul, en fait, c'est le contraire de la marchandisation. La beauté n'a même pas besoin d'être étalée, ni exprimée, enfin... Quand le Caravage peint un Bacchus complètement ivre qui vous tend sa coupe de vin, ou quand il peint le Christ en train d'être arrêté par des soldats sur le Mont des Oliviers, il s'agit de cette grande chose, enfin, qui peut sauver le monde, enfin, mais il s'agit de quelque chose qui est entièrement intériorisé, qui est d'une immense violence, et qui est la beauté.
Se peut-il que nous devenions de plus en plus insensibles à la beauté aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il y a un épaississement de la sensibilité. Enfin, on le sent tous. Enfin, il s'agit pas seulement de faire l'expérience du stéréotype qui nous agresse en permanence, mais du fait que l'insensé et l'insensible deviennent la même chose. Tout devient grossier, non? Je sais pas. Donc, c'est pour ça que pendant un an, je me suis tourné vers ces tableaux qui sont pas des tableaux du passé, mais des tableaux de bondissement. Enfin, où le fond noir qu'invente le Caravage dit aussi l'obscurcissement dont nous sommes l'objet au fond.
On va reparler de beau et d'écriture, de désir, de peinture, juste après un petit peu de douceur. Tiens, une douceur du mardi. Norah Jones, Painter Song. Vous êtes sur France Inter avec Yannick Enel. Vous écoutez Womang.
If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me. Could paint a memory. Climb inside the swirling skies to be with you. Could paint a memory. I'd climb inside the swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
La 7h préoccupée et intense ce jeudi matin de l'artiste tourmenté avec son front un peu plissé, son cheveu en bataille comme battu par les embruns bretons, son œil gris bleu profond. On a envie de s'asseoir à ses côtés et de lui demander ce qui se passe, de lui remonter un petit peu le moral à coups de chouchène, de château de sable, de bigouden avec son écharpe nouée autour du cou et sa chemise ouverte ce matin. L'écrivain Yannick Enel, invité de Boomerang pour parler du Caravage notamment. Et en vous lisant, on comprend à quel point vous avez été marqué par les corps peints par le Caravage. Qu'est-ce que c'est un corps pour vous, Yannick ?
Alors, comme ce sont des figures peintes, ce sont des corps qui ne se donnent pas. Comment aller vers ces corps ? Je pense qu'il n'y a, que des phrases qui peuvent... Il y a l'œil et les phrases. Vous me demandez ce que c'est qu'un corps ?
Oui.
Ah ben, dites donc, dès le matin.
Il n'y a que le matin qu'on peut poser cette question.
Mais c'est très bien. Ou alors,
le soir, ce serait tragique.
Très tard dans la nuit, alors. Qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Moi, pour moi, le corps, comme le disait tout à l'heure Delphine Seyrig de celui des femmes, c'est quelque chose qui a l'air d'apparaître, mais qui, au contraire, se dissimule dans quelque chose de plus subtil. Un corps, c'est d'abord de la voix, en fait.
Dans les tableaux du Caravage, ce sont des corps glorieux, quand ouais. même. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que le corps ne saurait-il être autrement que glorieux ?
Mais parce qu'il essaye de se confronter à quelque chose qui est la mort, tout simplement.
Conjurer la mort.
Conjurer la mort. Et
la peste, en l'occurrence.
Ben, c'est-à-dire que j'ai découvert, effectivement, que le Caravage, qui a perdu son père très tôt, il avait 6 ans, a vécu à Milan, à une époque où il y avait où la peste faisait des ravages, enfin, des dizaines de milliers de gens mouraient. Et je me suis demandé si le fond noir de ces tableaux ne venait pas, vous savez, de ce qui reste sur les murs, enfin, après la peste. Et toute la vie du Caravage, une vie fiévreuse, et il meurt de fièvre à 39 ans, d'infection et de fièvre. Je me suis demandé si cette vie n'était pas entièrement marquée de manière tragique par cette confrontation avec la mort.
C'est intéressant. Dans quelle mesure l'art est-il toujours pour vous une conjuration de la mort, Yannick Enel ?
Je pense que l'art, c'est une intensification de la vie, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce débordement où on est disponible aux choses les plus absolues. Et les choses les plus absolues, à part l'amour et la mort, je vois pas. Enfin, la mort est forcément là, mais pas comme un frein. Elle est là comme un démon qui nous regarderait, mais qui nous obligerait à ne pas se contenter d'une petite vie, à faire de sa vie quelque chose de grand. Enfin, et quelque chose de grand, c'est pas quelque chose de forcément démonstratif ou d'immodeste. C'est quelque chose qui se destine, comme on peut chaque jour, qui se destine à l'art, à l'écriture, au battement de cœur. Voilà, qu'est-ce qui nous fait battre le cœur ? C'est ça qui pour moi s'approche le plus de l'art et de la beauté.
Vous écrivez du Caravage, il peint avec les morts.
Oui.
Ça, c'est une phrase quand même très forte. Peindre avec les morts. Vous peignez, vous aussi, avec les morts ?
Ben, j'écris avec les morts, oui. J'écris avec mes morts. Mais c'est pas forcément un deuil qui nous précipite vers le malheur. Enfin, le deuil est une des conditions mêmes de la vie. Et c'est aussi un trésor, enfin, cette mémoire de tous ceux qui sont avec nous, enfin, avec les esprits ou les fantômes, je sais pas, chacun dit comme il veut. Le Caravage se confronte à la mort sans cesse, et surtout parce qu'il est obsédé par quelque chose d'incroyable, et je souligne le mot incroyable, qui est la résurrection. Je ne sais pas si le Caravage croyait en la résurrection, mais je pense que quand il peint, il ressuscite les corps sans cesse, ceux des saintes de Marie-Madeleine qu'il peint. Et vous savez qu'il allait chercher des petites prostituées qu'il plaçait dans son atelier saturé de pénombre et qu'il en faisait une sainte. Et la Judith dont je parlais tout à l'heure, qui a été mon premier amour, enfin, cette Judith était une prostituée qui s'appelait Filide Melandroni. Et après l'avoir peinte, son proxénète... ne pouvait plus la maîtriser. Enfin, elle était devenue de l'art et les princes tombaient amoureux d'elle. Et le Caravage a dû se battre avec ce proxénète et l'a tué. Ranuncio Tomazoni. Tout le malheur du Caravage qui a tué un homme et qui a vécu 4 ans en exil vient de là, du fait qu'il a défendu une courtisane qu'il a peinte.
S'il peint avec les morts, quelle serait la matière de votre écriture? Qu'est-ce qu'il y aurait dans votre langue à vous? La mémoire peut-être, je
la
me
mémoire,
disais,
oui.
En préparant
qu'est-ce
cette émission.
La mémoire, mais je pense que la mémoire c'est quelque chose qui est en avant. La mémoire c'est pas quelque chose qui nous alourdit. Vous me parliez de l'épaississement de la sensibilité aujourd'hui. Je pense que l'épaississement de la sensibilité contemporaine va avec la perte de la mémoire, avec l'amnésie organisée.
Il s'agit de la réveiller.
Exactement. Les phrases sont toujours des phrases de réveil. Et la texture même de l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de très charnel. Enfin, la langue même qui se trame dans des phrases et celle qu'on voit également dans des tableaux, dans le Caravage, enfin, et c'est fait avec du noir animal, vous savez, des os, oui. Des os brûlés. Enfin, cette texture, elle peut être très lourde et très légère. C'est la texture même du corps de ceux qui ont été là, de ceux qui sont autour de nous. C'est un monde au fond.
Comme je vous remercie, Yannick Haenel, d'être venu faire un tour dans cette émission ce matin pour ces mots, pour cette pensée. Je rappelle que La Solitude Caravage sort aujourd'hui même aux éditions Fayard, que c'est aussi beau que passionnant.